Chapitre 7. La biopuce est le premier signe d'appartenance à la cité unifiée. Elle est aussi et surtout le collier qui nous transforme en chiens, et nous devons apprendre à nous en délier si nous voulons regagner la liberté qu'elle nous a confisquée. Nous devons apprendre à redevenir errants et faméliques. MLC, Mouvement pour la liberté des citadins. Cité unifiée de Nilopa. Les ombres avaient atteint leur premier objectif, affoler la ruche de Nilopa. Elle multipliait les attaques, et nous n'avions toujours pas le moindre indice. Pour la première fois depuis la fondation de la CU, la population de Paris, gagnée par la panique, descendait dans la rue pour clamer sa colère et son inquiétude. La police peinait à contenir les vagues humaines qui déferlaient sur l'hôtel de ville et menaçaient de le submerger. Jamais Nilopa n'avait été à ce point déstabilisée. Les citadins commençaient à réclamer un gouvernement autoritaire et le déploiement de l'armée unifiée. Une solution stupide. Les soldats de l'AU, même armés jusqu'aux dents, même bardés de nouvelles technologies, n'auraient servi à rien contre les insaisissables meurtriers. Mais les populations terrorisées avaient besoin de voir des uniformes sur les places, dans les rues, devant leurs portes. Les médias jetaient de l'huile sur le feu, accusaient les municipalités d'incurie, vilipendaient les maires et leurs conseillers, réclamaient des mesures énergiques, urgentes, radicales. Une question nous taraudait. Puisque le crime profite toujours à quelqu'un, à qui profitaient ces vagues meurtrières ? Quel était le dessein réel des ombres ? Ganesh s'introduisit dans le bureau de Théodore.
« Tu as une tête de déterré », lui dit son équipier en guise d'accueil.
Après sa communication avec Amy, Ganesh avait foncé au domicile de la jeune femme et l'avait trouvé vide. Aucune trace d'effraction ni de lutte. Il avait appelé les hôpitaux puis les trois morgues parisiennes. On n'avait recensé aucune urgence ni aucun corps au nom d'Amy Clouseau.
« Des nouvelles de ton ex-petite amie ?» demanda Théo.
« Je sais pas ce qu'elle est devenue. J'ai déboulé chez elle, je l'ai pas vue, ni vivante ni morte. Je n'ai pas relevé non plus de traces d'effraction, aucun indice. L'appartement était en ordre. »
Ganesh prit la tasse que lui tendait son équipier. Théo, le buveur invétéré de café, avait préparé du thé au lait.
« On dirait que tu parles des ombres. »
« Les ombres ne se déplacent jamais pour une seule personne, » objecta Ganesh.
« Jusqu'à maintenant, on ne sait rien d'elle. Elle se paie peut-être des petits encas de temps en temps. Excuse-moi, je sais que tu y tenais à ton ex. Pourquoi t'a-t-elle appelé ?»
Ganesh but une gorgée de thé dont la saveur le surprit agréablement.
« Elle souhaitait me revoir. » « Elle a sans doute eu peur au dernier moment et s'est tirée avant que tu rappliques. Tu dois lui foutre une trouille de tous les diables, Ganesh. Tu es un fouineur, un monstre, un fantôme. T'inquiète pas. » Elle se rendra vite compte qu'il n'y a pas d'autre mec comme toi sur la place de Paris. Et elle te reviendra, un jour ou l'autre. »
Ganesh s'assit sur la seconde chaise du bureau de Théo et posa les pieds sur la table basse, tellement fatigué qu'il était impossible d'en deviner la couleur d'origine. La rumeur du central s'échouait dans la petite pièce en un murmure presque abstrait. « Je n'en suis pas si sûr que toi. »
« Alors tu feras comme les copains. Tu t'habitueras à la solitude et tu iras de temps en temps voir une pro. J'en connais d'excellentes. « Mais tu me parles jamais de tes parents, de ta famille. Tu en as une au moins ?»«
Je préfère ne pas aborder le sujet. » »«
Ça te regarde. » »« Mes parents à moi sont morts. Comme j'étais fils unique, je suis le dernier de la lignée et je ne laisse personne derrière moi. Une branche morte, quoi. »
Ganesh vida sa tasse. Théo avait dosé à la perfection le sucre et les épices. « Tu t'es mis au thé ?»«
Tu as l'air de te régaler tellement avec ça que tu m'as donné envie d'y goûter. » »«
Tu le fais bien ?» « Du nouveau avec la puce que tu as trouvée chez les adeptes de la fin des temps ?» Théodore demeura quelques instants silencieux, concentré sur les données fournies par sa biopuce.
« L'identificateur ADN bosse dessus 24 heures sur 24 »,
répondit-il du ton distant de ceux qui tentent de suivre deux conversations en même temps.
« Elle crache de temps à autre un bout d'information. Elle vient bien de New York et a transité par les bureaux des grubs, ce qui tendrait à prouver que la fin des temps était en relation avec certains de nos collègues new-yorkais. »
Aucun de ceux qu'on a arrêtés n'a parlé ?
On n'en tirera rien, à mon avis. Ces dingues sont dotés d'implants cérébraux qui ont été activés lors de leur arrestation et qui verrouillent leur mémoire.
Ganesh sortait d'une nuit cauchemardesque. La sensation d'être un insecte piégé dans une toile d'araignée et d'attendre, impuissant, résigné, que la prédatrice vienne le grignoter. Comme je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai tourné et retourné toutes les hypothèses dans ma tête.
J'ai lancé ma biopuce dans différentes directions et je n'ai toujours pas la moindre idée de la motivation des ombres.
C'est aussi pour ça qu'elles nous tiennent en échec. Le motif, c'est toujours ce qui finit par perdre les meurtriers. Si le chien n'a aucune petite odeur à se mettre sous la truffe, il ne remontera aucune piste.
Un petit rire s'échappa des lèvres de Ganesh. Une bulle de gaieté dans un univers de grisaille et de maussaderie.
Je ne te savais pas poète, Théo. Qu'est-ce que je peux boire comme thé et dire comme connerie depuis que nous faisons équipe? La puce de la fin des temps est un palimpseste.
Théo se tut quelques instants avant de reprendre.
Tu me demandes pas ce que c'est?
Un parchemin dont on a effacé la première écriture pour écrire un nouveau texte dessus, répondit Ganesh du tac au tac.
Les mecs qui savent toujours tout sont vraiment pas drôles.
J'adore les romans et les films qui traitent du Moyen-Âge, enfin, du Moyen-Âge européen. Je suis pas non plus un spécialiste, je connais seulement quelques trucs sur la période.
La puce a été plusieurs fois réinitialisée. La mémoire récente contient apparemment l'historique, la doctrine et la liste complète des adeptes de la fin des temps. Mais ce sont les mémoires d'en dessous, les anciennes, qui m'intéressent. Elles nous conduisent à la source.
La mairie de New York?
Possible.
Un rapport avec les ombres? Théodore se servit une nouvelle tasse de thé.
Possible aussi. Nous ne devons négliger aucune hypothèse, même celles qui nous paraissent invraisemblables. Avec les ombres, on est au-delà la logique.
Pour un fouineur, rentrer était une redoutable épreuve. Certains d'entre nous essayaient de vivre en couple, mais leurs tentatives ne duraient en général qu'une ou deux années, pas davantage. Nos familles coupaient les liens avec nous. Non qu'elles nous aient reniés ou maudits, mais comme elles ne nous comprenaient plus, elles nous oubliaient, peu à peu. Elles nous estompaient. Lorsque vous refermiez la porte de votre appartement et que de longues heures de silence et d'insomnie vous guettaient, comme des charognards, ni les programmes ineptes défilant sur les écrans muraux, ni la lecture, ni la musique, ni les réseaux ne pouvaient réellement briser le sentiment de solitude qui vous étreignait. Alors les pensées déferlaient dans votre esprit, comme des nuages poussés par un vent furieux. Votre biopuce se mettait à vibrillonner comme une ruche, et vous aviez l'impression de vous enfoncer dans un cauchemar éveillé. Peu à peu, vous preniez la seule décision qui s'imposait. Passer la nuit au central, rester le plus longtemps possible en compagnie des collègues, retarder le face-à-face avec vous-même, jusqu'à ce que le sommeil vous emporte. Parfois se nouaient des aventures entre fouineurs, mais elles ne duraient que deux ou trois nuits, jamais plus d'une semaine, parce que ces amants d'infortune étaient tellement secs que, très rapidement, leur embrasement les laissait en cendres. Suspension de l'ouverture automatique de la porte. Alerte. Présence détectée dans appartement. Alerte. Présence détectée dans appartement. Amical ou hostile?
Protégé par un brouillage.
Ganesh resta immobile et muet devant l'identificateur vocal de son appartement. Le couloir baignait dans une obscurité presque totale. Tu peux au moins la localiser?
Assise sur le canapé du salon.
Homme ou femme?
Pas d'autre précision.
Ce n'est pas Amy. Aucune raison qu'elle soit équipée d'un brouillage. Pas un tueur non plus. Il ne se serait pas tranquillement assis dans le canapé. Comment a-t-il pu rentrer?
Ganesh tira son tasse de la poche de sa veste et déverrouilla le cran de sûreté.
Essaie d'ouvrir discrètement et n'essaie pas d'allumer.
Ouverture de la porte.
La porte s'ouvrit sans un bruit, avec une lenteur crispante. Ganesh compta jusqu'à 5, avant de s'engouffrer dans l'appartement, de repérer la silhouette assise dans son canapé et de braquer son tasse sur elle.
« Ne bougez pas! Mon arme est pointée sur vous !»
La silhouette resta parfaitement immobile. Une femme d'une trentaine d'années, chevelure blonde en carré plongeant, teint pâle, yeux clairs, lèvres minces. Quelque chose d'un reptile glissé dans une veste et un pantalon noir. « Du calme, » dit-elle. « Je suis votre contact avec les grubs de New York. »
Ganesh garda le tasse braqué sur l'intruse. « Vous auriez pu vous annoncer ?»«
Nous préférons éviter les formalités. » Vous permettez que ma biopuce installe son système de brouillage sur la vôtre?
Vous pourriez en profiter pour prendre le contrôle de mon cerveau.
Un sourire égaya la face émaciée de son interlocutrice qui garda les mains posées sur ses genoux.
Première analyse morphopsyché, grand contrôle sur elle-même, calme, intelligente, obstinée, retorse.
Il vous faudra faire preuve d'un minimum de confiance, Ganesh Parvati.
Vous connaissez mon nom et je ne connais pas le vôtre.
Pour vous, je serai Vilma. Ai-je votre accord? Vilma, joli prénom. Ce brouillage, je ne pourrai jamais m'en débarrasser.
Si, bien sûr. Votre biopuce sera les clés pour le désinstaller et le réinstaller à votre guise.
Pour le moment, je dois vous croire sur parole.
Il remisa son tasse dans la poche de sa veste et commanda mentalement à sa biopuce l'allumage des lampes. L'appartement s'emplit de lumière dorée.
Ganesh s'assit sur le pouf rouge en face du canapé. L'éclairage humanisait la visiteuse et révélait sa beauté.
« À part mon nom, qu'est-ce que vous savez sur moi ?»«
Vous êtes âgé de 23 ans. Vos parents et vos deux sœurs ont été assassinés à leur domicile par un plombeur, alors que vous aviez 12 ans. C'est vous qui avez découvert leur corps mutilé. Vous avez été recueilli par les services sociaux de la ville jusqu'à votre majorité. Vous avez fait de brillantes études qui auraient pu vous valoir un poste prestigieux à la mairie de Paris ou dans l'administration de la CU. Mais vous aviez décidé depuis longtemps de devenir fouineur. Vous aimez le thé avec lait et épices. Vous êtes de tendance végétarienne. Vous vous adonnez à la méditation. Vous êtes quelqu'un de très doux et calme en apparence. Mais vous êtes obstiné, indépendant. Vous n'en faites qu'à votre tête sous vos dehors sociables. Vous ne lâchez jamais rien. Votre indolence et votre courtoisie cachent une volonté féroce. Vous avez horreur de la bagarre. Et pourtant, vous êtes capable d'une très grande violence lorsque vous vous sentez menacé. J'ai donc pris de gros risques en m'introduisant clandestinement chez vous. J'aurais pu recevoir en plein cœur les 15 000 volts de votre tasse.
Elle avait prononcé ces mots sans marquer la moindre hésitation ni la moindre pause.
Ganesh se sentit aussitôt nu et faible qu'au jour de sa naissance.
Seul son ancien tuteur et certaines personnes des services sociaux de la ville connaissaient les épisodes les plus douloureux de son passé.
« Comment êtes-vous entré chez moi ? Vous savez bien que les biopuces sont capables de craquer n'importe quel système de sécurité. Vous ne m'avez toujours pas donné votre réponse. »
Elle émergea du tourbillon de ses pensées.
« Allez-y, balancez-le-moi, votre satané brouillage. Je n'ai plus de secret pour vous, de toute façon.
Pas douloureux, au moins. »
Elle sourit pour la deuxième fois.
« Ah, c'est vrai, j'oubliais. Vous êtes douillet. »
« Voilà, c'est fait. Et vous n'avez rien senti. »
« Nouveau système de brouillage détecté. Nouveau système de brouillage installé. »
La légère vibration sous le crâne de Ganesh s'arrêta au bout de quelques secondes.
« Pourquoi me contactez-vous, moi ? Je viens à peine d'intégrer les fouineurs. C'est plutôt Théo qui vous intéresserait, non ?
Nous le contacterons quand nous le jugerons utile. »
La voix de Vilma gardait une étonnante neutralité, à la manière d'une voix synthétique.
Si nous le jugeons utile. Pour l'instant, c'est sur vous que nous avons décidé de miser.
Il tenta de discerner une émotion sur le visage de la jeune femme.
Analyse morphopsyché. Sujet rodé à la dissimulation. Bouclier mental indéchiffrable.
Vous n'avez pas confiance en Théo ?
Nous n'avons confiance en personne.
En moi non plus ?
En personne.
Mais après avoir analysé votre profil, nous pensons que vous êtes le candidat le plus qualifié pour être notre tête de pont à Paris.
Qu'attendez-vous de moi ?
Que vous soyez loyal avec nous. Que vous collaboriez franchement. Que vous nous transmettiez toutes vos informations, même les plus anodines. Et, évidemment, que vous gardiez le secret sur notre pacte.
Estimation d'authenticité, 56%.
Vous savez qu'on nous a pourchassés, Théo et moi, à New York ?
Nous savons même que vos poursuivants ont tué par erreur une vendeuse d'un grand magasin avant que vous ne les neutralisiez.
Qui les avait envoyés ?
Probablement une faction de grub opposée à la nôtre, et qui a réussi à neutraliser la biopuce de Tom O'Brien. Tom a disparu aussi, certainement éliminé.
Ganesh se leva et s'approcha de la baie vitrée. Le spectacle de la ville s'enlisant dans la nuit l'avait toujours envoûté. Les lumières éparses, fixes ou fuyantes, était autant de poussières d'étoiles éparpillées sur la terre. Il gardait un œil sur le reflet de Vilma dans la vitre. Difficile d'accrocher la moindre certitude sur une telle experte dans l'art de la dissimulation mentale.
Ça signifie que Théo et moi sommes en danger.
Vous bénéficiez d'une protection.
Génial. Je me sens aussi rassuré qu'une chèvre attachée à un piquet pour attirer le tigre.
Vous ne risquez rien. Le nouveau brouillage nous accorde un répit d'une quinzaine de jours. Et nous le modifierons dans 2 semaines.
Un brouillage même performant n'arrête pas un tueur.
Nous serons prévenus des moindres mouvements autour de vous. En cas de nécessité, nous interviendrons.
Ganesh se retourna et fixa la jeune femme, qui n'avait pas changé de position sur le canapé.
Que faites-vous de ma vie privée ?
Nous préférons vous assurer une vie tout court.
Est-ce un mal ?
Présenté comme ça, évidemment.
Comment vous contacterai-je si j'ai des informations à vous transmettre ?
Par votre biopuce.
nous disposons d'un domaine secret. Il vous suffira de prononcer le code suivant pour y accéder. WA19BX-60ZKY. Mémorisez-le immédiatement.
Ganesh eut besoin de 3 secondes pour le mémoriser.
Il n'a aucune logique, votre code.
C'est volontaire.
Moins les codes sont logiques et moins ils sont faciles à décrypter.
Répétez-le.
WA19BX-60ZKY.
Parfait.
Votre profil disait également que vous aviez une excellente mémoire.
Décryptage du domaine.
Ouverture du domaine.
Une voix masculine résonna à l'intérieur du crâne de Ganesh.
Bienvenue dans notre petit groupe et votre nouvel espace de dialogue, Ganesh.
Le français était parfait, et l'accent new-yorkais.
Il vous suffit ensuite de parler à voix basse, précisa Vilma.
Le programme enregistre vos paroles et les garde en mémoire, jusqu'à ce que vos interlocuteurs en aient pris connaissance.
Rien d'autre à faire ?
Vilma se leva et vint le rejoindre devant la baie vitrée.
Aussi grande que lui, 1m80 au moins, parfum à la fois discret et entêtant.
Il est possible que le groupe entre en communication avec vous pour vous confier une mission spécifique, ajouta-t-elle.
La mienne s'arrête à l'instant.
Permettez-moi de prendre congé.
J'ai manqué à tous mes devoirs, je ne vous ai rien offert à boire.
Aucune importance.
Elle se dirigea vers la porte.
Une dernière chose avant que vous partiez. Mon ex-petite amie Amy a disparu hier soir. Est-ce que vous savez quelque chose à son sujet ? Est-ce que ça a un rapport avec notre groupe ?
Vilma se retourna et marqua un temps de silence avant de répondre.
Dans l'état actuel de mes connaissances, aucun rapport.
Il eut la conviction qu'elle mentait.
Elle sortit sans refermer la porte.
Le bruit de ses pas décrut peu à peu dans le couloir.
Toujours rien à signaler ?
La perte de sa petite amie l'a affecté plus profondément qu'il ne le pense, monsieur. Nous constatons une baisse sensible de ses défenses immunitaires.
L'amour. Cette éternelle plaie humaine.
Avez-vous un lien avec la disparition de sa petite amie ?
Me croyez-vous donc si cruelle, mademoiselle ?
Je ne crois rien, monsieur, je m'interroge.
Caton se tut quelques instants.
Seul son souffle résonna dans la cabine de Mina. Une respiration étonnamment bruyante, désagréable.
Pas de signe de rejet de sa biopuce ? Reprit-il.
Aucun.
Parfait. Tout semble se dérouler selon nos prévisions.
Puis-je savoir ce que vous projetez, monsieur ?
Vous savez déjà que vous n'aurez pas de réponse à cette question.
Je n'aime pas ce que vous m'obligez à faire.
Et moi, je puis vous assurer d'une chose, mademoiselle. Je m'en fous.
Il y a pire que les bêtes féroces, pire que les maladies, pire que les déformations génétiques, pire que les guerres entre clans. Pire que la canicule, pire que les grands froids, pire que les tribus sauvages. Il y a les guérisseurs. Ne leur confie jamais tes maux, ils transformeront ta vie en enfer.
Proverbe de l'agglomération de Trois-Aubes.
Pays hors site. À Trois-Aubes, les guérisseurs étaient souvent les éminences grises des chefs de clan. Ils utilisaient les herbes et les minéraux pour soulager les souffrances et, surtout, pour fabriquer des poisons foudroyants, qui éliminaient les rivaux et les comploteurs sans trace. On les appelait les piloufas, parce que, comme une pièce d'un trobe, ils avaient deux faces, la vie et la mort, et que lorsque l'on se retrouvait devant eux, on ne savait jamais sur laquelle on allait tomber. On évitait donc de recourir à leurs soins, même en cas de maladie grave. Leur décoction vous ramenait à la vie ou vous expédiait sur l'autre rive. Dans tous les cas, ils inspiraient la crainte. Les chefs de clan eux-mêmes n'auraient jamais persécuté ou humilié un guérisseur. Ils auraient eu trop peur d'être envoûtés ou assassinés pendant leur sommeil. Un hurlement déchira la nuit et réveilla Delune. Il se redressa sur sa litière de paille. Il avait peu dormi. Des pensées tumultueuses, inquiètes, hantées par Naya, l'avaient empêché de plonger dans le sommeil. Des bruits de pas enflèrent dans le couloir, suivis d'un crissement de verrou et d'un grincement de gonds. La porte s'ouvrit et livra passage à l'un des gardiens équipé d'une torche. Il portait, enfoncé dans sa large ceinture de cuir, un revolver à la crosse de bois ouvragée, et tenait en laisse un molosse pourvu d'une muselière.
« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Delune.
« C'est Grard, le chef du clan, » répondit le gardien. « Il a encore une crise. »«
Une crise ?»«
Des douleurs qui lui viennent des reins. » Vaut mieux pas être devant lui quand ça arrive, il est capable de vous décapiter d'un coup de poing. Ça lui prend au moins une fois par saison.
Vous n'avez pas de guérisseur dans votre clan ?
Le gardien calma son animal, nerveux, grondant, d'une caresse entre les oreilles.
De Lune n'avait jamais vu ce genre de chien. Pelage blanc tacheté de rose, oreilles taillées en pointe, museau long et puissant, yeux rouges et luisants, pattes courtes et massives, plus de 80 kilos. Le résultat probable d'une mutation génétique.
Le clan en a un, Ezok qu'il s'appelle. Pas un gars du genre commode. Il soigne les chefs du perce-oreille, mais il a jamais trouvé le moyen de mettre fin aux crises de grare.
De Lune leva les bras pour montrer les cercles de fer qui lui emprisonnaient les poignets.
Si vous me détachiez, je pourrais essayer de savoir de quoi souffre votre chef, et peut-être trouver le bon remède.
Le gardien ricana. Il a pas fait une bonne affaire en t'achetant finalement. T'es pas si sain de corps et d'esprit que le crieur le prétendait.
De Lune retroussa sa manche avec ses dents et dévoila le tatouage sur son bras.
Vous voyez le serpent? C'est le symbole des guérisseurs du clan du Haut Lieu. Mon maître était Dandera, le plus grand guérisseur des bords du fleuve. Grar pourrait vous en être reconnaissant.
Le gardien écarta les mèches devant ses yeux et se pencha pour examiner le dessin.
T'es un malin, toi, grogna-t-il. Une fois que je t'aurai détaché, t'en profiteras pour foutre le camp, et moi, on me retrouvera demain cloué à une porte ou bouffé vivant par les rats noirs. Responsable des prisonniers, c'est une sacrée bonne place dans le clan. Je tiens surtout pas à la perdre.
Pourquoi êtes-vous entré dans cette pièce, alors?
Justement pour m'assurer que t'étais encore vivant.
Un nouveau hurlement retentit encore plus effroyable que le premier.
Ça s'arrange pas, on dirait, marmonna le gardien. C'est pas bon pour toi, ça.
Pourquoi?
Parce que des fois, Ezok, le guérisseur, recommande du sang frais à Grar, et que ça pourrait bien être le tien.
Les éclats de rire du gardien et les jappements étouffés de son molosse s'entrelacèrent dans le silence oppressant.
Difficile de donner un âge aux habitants du pays hors site. Parfois, vous pensiez qu'ils avaient une soixantaine d'années alors qu'ils avaient à peine dépassé la vingtaine. Et d'autres fois, vous vous figuriez qu'ils avaient tout juste 20 ans et ils en avouaient plus de 40. Les gens ne sont pas égaux devant le vieillissement, ni devant la mort. Naya, elle, aurait pu en avoir aussi bien 20 que 60. Elle paraissait par moments plus ancienne que les arbres mutants poussés après la Grande Guerre. Elle ressemblait, quelquefois, à une gamine, à peine entrée dans l'adolescence. Les sauvages ne donnaient pas l'impression de vieillir, jusqu'à ce qu'ils tomberaient de mort aux alentours de la 50aine. Il n'y avait pas de tribu sauvage dans notre coin. La végétation épaisse, hostile, toxique, ne le permettait pas. Elle pullulait en revanche du côté de Trois Aubes. Même harcelée par les clans, elle proliférait dans les forêts profondes qu'elle connaissait mieux que personne et qui leur offraient largement de quoi subvenir à leurs besoins.
Leur ravisseur avait enfermé Naya en compagnie de Yosp dans une cage exiguë où elle ne pouvait tenir debout. Elle avait essayé de briser, d'écarter les branches taillées qui servaient de barreaux, mais n'était parvenue qu'à s'égratigner les doigts. Les chants et les vociférations des sauvages montaient dans la nuit noire. Les odeurs de viande grillée apportées par le vent avivait son appétit tout en soulevant en elle un sentiment d'horreur. Abattue, elle avait fini par s'asseoir aux côtés de Yosp, qui, recroquevillé sur lui-même, ne cessait de trembler de froid et de peur depuis leur capture. Aux lueurs mourantes des torches, il distinguait d'autres cages non loin, certaines suspendues, mais il était impossible de deviner si elles étaient occupées ou non. Les guetteurs peinaient à contenir leurs chiens, dont les museaux se glissaient furtivement entre les barreaux.
« T'avais raison, Yosp !» murmura Naya au bord des larmes. « C'est tout noir et ça pue ici. Tu avais parlé de bêtes féroces. Si on essayait de sortir, ces satanés chiens nous tailleraient en pièces. On dirait qu'ils n'ont pas mangé depuis plus d'un mois. Tu t'es pas trompé encore une fois. Les heures ne te disent pas ce que ces sauvages veulent faire de nous ?»
Yosp marmonna d'incompréhensibles sons dont certains finirent par devenir des mots et former des phrases.
« Les heures ne me parlent plus. Elles ne me parlent plus. Elles sont fâchées contre moi. Si t'arrêtais de dire n'importe quoi !» se récria Naya. « Les heures nous mangent, mais elles ne se fâchent contre personne. Si, elles sont fâchées après moi. Elles me parlent plus. J'ai froid, j'ai peur, j'ai mal aux yeux. Je me demande ce que fiche de Lune. »
Naya fut envahie d'un grand froid. Une croûte épaisse commençait à se former sur sa tempe.
Même s'il parvient à sortir vivant de Trois Aubes, il ne nous retrouvera jamais.
Là, homme grand, sa tête fait peur. Il veut tuer Delune, tuer Delune. Tu l'as répété 1000 fois, et puis ça ne veut plus rien dire si les heures ne te parlent plus.
Giosp se redressa tout à coup, les yeux exorbités, les lèvres bleuies par la fraîcheur nocturne.
« Je suis pas un menteur! Pas un menteur! Elles me l'ont déjà dit avant !»«
ça va, te fâche pas !» Naya donna un coup rageur sur un barreau.
« Pourquoi ils nous ont enfermés, ces dingues ?»«
Je ne voudrais pas faire preuve d'un pessimisme exagéré, mais je crois que c'est pour offrir notre chair et notre sang à la forêt !»
tonna une voix grave. Naya tenta de savoir d'où elle provenait, mais elle ne distingua entre les cages que les silhouettes des guetteurs et leurs chiens. L'homme parlait avec un accent qu'elle n'avait jamais entendu.
« Vous êtes qui, vous ?»«
Un captif comme vous, » répondit l'homme. « Un peu plus ancien que vous. Je suis enfermé dans l'une des cages. Solide, d'ailleurs, hein ? Je n'ai jamais réussi à enfoncer les foutues branches que ces primitifs utilisent comme barreaux. J'avais 2 compagnons, ils ont déjà été emmenés, et à en juger par les cris que j'ai entendus, ils ne devaient pas être beaux à voir après la cérémonie. » « Vous venez d'où ?»
Naya se rendit compte que la voix tombait d'une cage suspendue.
« Du noyau, une agglomération du bord du fleuve. Enfin, moi, mon clan, le clan du Pégase, a été exterminé. J'ai pu m'enfuir. »«
Et votre ami ?» ?»«
Je l'ai rencontré dans une grotte. Sa tribu a été massacrée. C'est un drôle de gars. Il peut prédire l'avenir, enfin, l'avenir immédiat. »«
Plus maintenant. Les heures sont fâchées contre moi. »
gémit Giosp.
« Je les entends plus !»
Naya effleura le bras du petit homme, un geste qu'elle n'aurait même pas pu imaginer quelques instants plus tôt.
« T'inquiète pas, elles te reparleront bien assez tôt. »
Elle se retourna dans la direction de la voix. « Et vous, vous êtes d'où ?»«
D'au-delà de l'océan, de New York. J'y étais grub, enfin, enquêteur. Une sorte de flic, si vous préférez. »«
C'est quoi, nouilleux ?»
bêla Giosp.
C'est quoi l'océan? C'est quoi flic?
Une seule question à la fois. New York, vous n'avez jamais entendu parler de la cité unifiée?
Ben si, répondit Naya. Mais il y en a qui disent que c'est une légende.
Non, c'est pas une légende, déclara la voix. New York est l'une des 3 villes de la cité unifiée. Quant à l'océan, c'est une gigantesque masse d'eau entre les 2 continents.
Giosp leva des yeux implorants sur Naya.
« Je comprends pas tout ce qu'il dit. »
Elle se secoua pour se débarrasser du sentiment d'absurdité, d'irréel, que lui procurait cette conversation.
« Les colporteurs parlaient de cette immense étendue d'eau, » reprit-elle. « Je croyais qu'ils racontaient des histoires. Ce sont des sacrés menteurs. Comment vous l'avez traversé, si c'est si grand ?»«
Par le tube sous-marin. Un appareil qui peut vous emmener à grande vitesse sous l'eau. »
« Sans blague, ça doit être génial !»«
Le paysage est incroyable si on prend le temps de l'observer. Le plus étonnant, c'est... »
Les membres grêles de Giosp s'agitèrent dans l'obscurité comme les os d'un squelette.
« Les heures, elles me parlent. Je les entends. Elles me disent que les hommes vont venir, qu'ils vont te prendre. »
Alertés par son éclat de voix, les guetteurs regardèrent dans leur direction et les chiens se mirent à aboyer. Les champs parurent se rapprocher d'eux.
Les prédictions de votre ami ont toutes les chances de se réaliser, lança la voix. Nous sommes tous condamnés à finir de la même façon.
Naya scruta les ténèbres du regard et prit une profonde inspiration pour desserrer l'étau qui lui comprimait la poitrine.
Qu'est-ce qu'ils vont faire de vous?
Comme pour les autres, je suppose. Offrir mon sang et ma chair à leur chère forêt.
Aucune nuance de peur n'avait altéré sa voix quand l'homme avait prononcé ces mots.
« C'est idiot !» s'exclama Naya. « Une forêt n'est pas un dieu !»«
Pour eux, si. Elle est leur dieu. Elle les protège et les nourrit. C'est leur façon de lui rendre grâce. »
« Ça n'a pas l'air de vous effrayer. »
« La terre tout entière est sur le point de connaître des jours sombres. Très sombres. Finir comme ça ou d'une autre manière... »«
Ils arrivent !»
intervint Giosp.
« Ils arrivent !»
Les champs s'étaient encore rapprochés. Naya discerna des silhouettes claires entre les troncs d'arbres et les cages suspendues. Les membres de la tribu, hommes et femmes, aux corps enduits d'une substance blanche, de l'argile peut-être, ou encore des cendres.
Les hurlements reprirent de plus belle, perforant l'obscurité. Le molosse gronda en sourdine.
« Je me demande ce que fout Ézoc !» gronda le gardien.
Delune secoua ses chaînes et tenta de mettre toute la force de sa conviction dans sa voix.
« Conduis-moi à ton chef. S'il souffre de ce que je pense, je devrais pouvoir le soigner. »
Le gardien lui lança un regard de chiot apeuré.
« Si je fais un truc comme ça, il est capable de m'arracher la tête. Et qu'est-ce qu'on risque à essayer ?»
Le gardien pointa l'index sur son front.
« Ma tête ? Dis-moi un truc, pourquoi tu tiens tant à soigner l'homme qui t'a acheté et t'a pris ta liberté ?»
Delune montra de nouveau le serpent tatoué sur son bras.
« Je te l'ai dit, je suis guérisseur. J'ai fait le serment de soigner tous ceux qui souffrent. Mon maître, Dandera, fais chier avec ton Dandera !»
coupa le gardien. Il s'appuya contre un mur et resta un temps dans cette position, attentif au menu bruit qui peuplait le silence retombé sur les lieux.
Ça a l'air de s'arranger.
À peine avait-il prononcé ces mots qu'un nouveau hurlement roula comme un grondement d'orage.
« Ça va donc jamais s'arrêter ?»« S'il souffre de ce que je pense, ça ne fera qu'empirer !» affirma Delune. « Et c'est de quoi qu'il souffre ?»
Delune espéra qu'il avait fait le bon diagnostic.
« Je dois l'ausculter pour vérifier. »«
T'es vraiment un malin, toi !» marmonna le gardien.
« Mais si je te conduis près de Grar et que t'arrives pas à le soulager, je donne pas cher de notre peau !» Il faut savoir prendre des risques.
Le gardien réfléchit un moment, la tête légèrement penchée sur le côté, la main posée sur le cou du molosse. Il s'anima tout à coup et, traînant son chien, se dirigea vers le captif allongé sur la paillasse.
D'accord, ça vaut peut-être le coup d'essayer, mais je te préviens, si t'essaies de t'échapper, je t'arrache le cœur à main nue.
Delune pensa que les choses tournaient peut-être en sa faveur, mais se garda de s'en réjouir. Dandera rappelait à la moindre occasion qu'il ne fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
« Tu as ma parole !» se contenta-t-il de dire.
« On sait ce que ça vaut, une parole, à trois aubes. »«
Ça me concerne pas. Je ne suis pas de trois aubes. »
Un nouveau hurlement creva le bois de la porte et les pierres du mur. Le gardien approcha sa clé des menottes en serrant les poignets de Delune.
« Je suis peut-être en train de faire la plus grosse connerie de ma vie. »
On ne saura jamais combien les forêts abritaient de tribus sauvages. De la même façon, sans doute, qu'on ne saurait jamais combien de personnes vivaient dans le pays hors-site. On ignorait même où commençait et où se terminait le pays hors-site. Seuls les colporteurs allaient d'une agglomération à l'autre, d'un fleuve à l'autre, d'une mer à l'autre. Mais comme ils ne pouvaient pas explorer tous les territoires, ils se contentaient de suivre leurs sentiers habituels. La vitesse à laquelle une civilisation se désagrégeait, à laquelle un pays entier redevenait sauvage, à laquelle les êtres humains se transformaient en bêtes féroces, ne cessait de m'étonner. L'homme dépassait de deux bonnes têtes ceux qu'il avait capturés. Naya l'avait vu se débattre avec une telle force que ses vêtements s'étaient déchirés, qu'il leur avait échappé et avait disparu entre les troncs d'arbres. Les guetteurs et leurs chiens s'étaient aussitôt lancés à sa poursuite. La nuit avait peu à peu absorbé les vociférations et les aboiements.
« Je crois qu'il n'a aucune chance contre les chiens, » soupira Naya. « Les heures me disent qu'il va grimper dans un arbre, »
déclara Yosp. « Il va s'en sortir alors ?»«
C'est pas. Les heures me disent juste qu'il est dans un arbre. Il regarde sous lui, les autres ne le voient pas. Les chiens ne le sentent plus. »
Un homme muni d'une torche s'était approché de la cage. Un sourire hideux se découpait dans sa barbe emmêlée.
« S'il leur échappe, ils vont s'en prendre à l'un de nous deux, »
souffla-t-elle.
« Les heures ! Les heures !»
brama Yosp.
« Parle, putain !» Naya, allongée sur une grande pierre, ils sont autour d'elle. Un homme, il tient un couteau, les autres, ils chantent, ils hurlent, ils dansent. Il y a du feu, de la fumée.
Le sang de Naya se glaça.
Et je ne fais pas comme le mec de Nouille, quelque chose? Je n'essaie pas de m'enfuir?
Pas possible! Pas possible! Attaché sur la pierre!
Naya crut qu'elle allait vomir le peu qu'elle avait dans le ventre.
Et toi, Yosp? « Tu es où ?»«
Je sais pas. Les heures ne parlent jamais de moi. »
Le visage ingrat du petit homme s'était voilé d'une profonde tristesse. Naya regretta que les sauvages ne lui aient pas laissé son flingue. Elle ne l'aurait pas utilisé contre eux. Elle aurait glissé le canon dans sa bouche et aurait pressé la détente, appliquant la devise du clan du Pégase. « Plutôt te donner la mort que la recevoir de quelqu'un d'autre. »«
Putain, t'as pas des prédictions un peu moins sinistres ?» Les heures ne mentent jamais.
Il leur arrive de se tromper, non?
Jamais!
Elle se contint pour ne pas frapper le petit homme.
T'aurais pas pu la fermer, merde!
Des clameurs et des aboiements furieux retentirent dans le lointain, comme si ses poursuivants avaient fini par rattraper le fuyard. Naya en éprouva du soulagement. Il arrivait donc aux heures de se tromper.
Ezok le guérisseur se dirigea d'un pas furieux vers les deux hommes. Sa cape de fourrure grise flottait autour de lui comme une aile. Grand, plus de 2 mètres sans doute, très maigre, le visage déformé par une aberration génétique, un œil vitreux en haut du front, l'autre brillant près de l'aile du nez, une bouche en oblique, des cheveux épars et drus tombant sur les sourcils, des excroissances rougeâtres sur les joues, le menton et le cou. Une torche fixée au mur allongeait et déformait les ombres.
« Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Qui vous a permis d'entrer ?»
La voix du guérisseur avait claqué comme un coup de fouet.
« Les gardes nous ont laissé passer, » répondit le gardien.
« Désolé de te déranger, vénérable Ezok, mais le prisonnier, là, il prétend être guérisseur et il dit, comme ça, pouvoir soulager les souffrances du vénéré Grar. »
De Lune crut que le dénommé Ezok allait se jeter sur son interlocuteur et lui arracher la peau avec ses ongles taillés en pointe.
« Tu as perdu la tête de l'avoir conduit ici ?»
vociféra le guérisseur. Les mouvements de ses lèvres dévoilaient une dentition anarchique et incomplète.
« Il vaut 450 troubles ! Tu répondras de ta bêtise, misérable rat !»«
Laissez-moi seulement ausculter le chef de votre clan !» intervint de Lune.
Ezok le dévisagea d'un air à la fois coléreux et méprisant.
« Je suis le guérisseur du clan depuis de nombreuses années. J'ai soigné son père avant Grar. Comment oses-tu croire, toi, qui ne viens de nulle part, que ta science pourrait surpasser la mienne ?»«
Mon nom est de Lune. Je ne viens pas de nulle part, mais du clan du Haut-Lieu. Les membres de mon clan consacrent leur existence à la connaissance des herbes et aux pratiques de guérison. »
Il tendit son bras sous le visage de son vis-à-vis.
« Vous voyez ce symbole sur mon bras ? Le serpent, symbole de guérison et de régénérescence. »
Ezok observa avec attention le serpent. Il sembla à de Lune que l'œil près de son nez se troublait. Sur le lit massif qui occupait le fond de la pièce, reposait le corps de Grar, agité de spasmes. La décoration se limitait aux peaux de bêtes étalées sur le sol de terre battue et sur les murs. Une petite porte, dans le coin droit, donnait probablement sur le lieu d'aisance. Une odeur pestilentielle imprégnait l'air chargé d'humidité.
« Tu ne m'impressionnes pas avec tes tatouages !» siffla Ezok. « Il faut bien plus que des paroles et des symboles pour être un véritable guérisseur !» Toi, ramène-le immédiatement dans le cachot d'où tu n'aurais jamais dû le sortir. »
Le gardien s'inclina avec déférence. Son chien tirait déjà sur sa laisse pour l'entraîner hors de la chambre.
Pardonnez-moi ce dérangement, vénérable Ezok. Demain, je déciderai des suites à donner à ta stupide initiative et à la négligence des gardes,
gronda le guérisseur.
Fichez le camp tous les deux et laissez-moi faire mon travail.
Le gardien tira avec brutalité sur la chaîne. De Lune crut que ses deux bras allaient se séparer de son corps.
« Viens par ici, toi !»
Le gardien n'oserait pas se venger de lui de peur de s'attirer les foudres de Grar, mais les conditions de sa captivité risquaient encore de se durcir. Ils se dirigèrent vers la porte principale. De l'autre côté, les deux gardes, que De Lune et son geôlier étaient parvenus à convaincre quelques minutes plus tôt, n'en menaient sans doute pas large.
« Attendez !»
La voix géniarde avait surgi du fond de la pièce. Ezok se précipita vers le grand lit.
« Tout va bien, Grar. Je m'occupe de toi. Repose-toi. La crise est bientôt finie. Il faut maintenant que tu récupères. »
Grar se redressa et tendit le bras en direction de De Lune.
« Laisse-le m'examiner. »«
Tu n'y penses pas, Grar !»
protesta le guérisseur.
« C'est un étranger, un esclave, un vagabond qui s'est fait capturer pour avoir tenté de dérober des lunettes. Il dit n'importe quoi !»
Grar grimaça avant de décocher à Ezok un regard dur.
« Laisse-le m'examiner, je te dis. »
Sa phrase s'acheva en une longue plainte. Il se plia sur lui-même en libérant un gémissement étouffé.
« Je me vois dans l'obligation de m'y opposer, » insista Ezok. « Tu n'as pas toute ta... »«
La ferme, c'est ma décision. S'il ne me soulage pas, je le ferai jeter vivant au rat noir. »
Le remède que je t'ai administré ne devrait pas tarder à faire son effet. Un peu de patience. La ferme, je te dis.
Grar se releva de nouveau.
Ses plaies luisaient et suintaient au milieu de son visage et de son torse en sueur. Il fixa Delune avec une attention qui ressemblait fort à une supplique.
« Approche-toi, et je te préviens, t'as pas intérêt à nous avoir raconté des fables. »
Les aboiements et les cris se rapprochaient. Des lumières dansantes brillaient entre les frondaisons. Les guetteurs et les chiens revenaient de leur traque, bredouille, d'après leur mine défaite.
« Je crois bien qu'ils viennent pour nous cette fois, » murmura Naya.
Elle se sentit glacée de la tête aux pieds, comme déjà conquise par la mort.
« J'ai peur !»
bêla Yosp. Une multitude d'hommes et de femmes encerclait maintenant la cage, visage et corps enduits de substances claires. L'un d'eux s'avança vers la cage et entreprit d'en ouvrir la porte.
« Forêt réclame sang !»
déclara-t-il.
« Elle réclame rien du tout !» cria Naya. « C'est pas un dieu, ta putain de forêt, juste des arbres, des fougères et des buissons !»«
Venir avec nous !»
L'homme entra dans la cage et la saisit par le poignet. Une odeur animale lui fouetta les narines. Elle se débattit, sans parvenir à desserrer l'étreinte. Hors de la cage, deux hommes la saisirent bras tordus dans le dos pour la contraindre, d'un coup dans les reins, à se frayer un chemin au milieu de faces grimaçantes.
« Ôtez vos sales pattes de moi !»
hurla-t-elle. Un vent de panique se levait en elle. Elle allait mourir dans cette forêt profonde, immolée par des êtres retournés à l'état sauvage, sans avoir revu Delune. Delune. Pourquoi l'avait-il abandonnée? La voix éraillée et affolée de Yosp l'attira un instant de ses pensées.
« Lâchez-moi! Le Renan va vous manger !»
Des larmes de rage et de désespoir coulèrent sur les joues de Naya. Elle chercha des marques de complicité ou de compassion dans les regards des femmes qu'elle croisait, mais n'y rencontra qu'une férocité animale.
« Yosp !»
cria-t-elle.
« Cette fois, les heures nous ont vraiment abandonnés !»